Troisième partie, chapitre 9. À plusieurs reprises déjà, j'avais voulu me retirer, et plus que pour toute autre raison, à cause de l'insignifiance que ma présence imposait à cette réunion. L'une, pourtant, de celles que j'avais longtemps imaginées si belles et qui sans doute l'eût été si elle n'avait pas eu de témoins gênants. Du moins, mon départ allait permettre aux invités, une fois que le profane ne serait plus là, de se constituer enfin en comité secret. Ils allaient pouvoir célébrer les mystères pour la célébration desquels ils s'étaient réunis. Car ce n'était pas évidemment pour parler de Franz Hals ou de l'avarice et pour en parler de la même façon que font les gens de la bourgeoisie. On ne disait que des riens, sans doute parce que j'étais là. Et j'avais des remords en voyant toutes ces jolies femmes séparées, de les empêcher, par ma présence, de mener, dans le plus précieux de ces salons, la vie mystérieuse du faubourg Saint-Germain. Mais ce départ, que je voulais à tout instant effectuer, monsieur et madame de Guermantes poussaient l'esprit de sacrifice jusqu'à le reculer en me retenant. Chose plus curieuse encore, plusieurs des dames qui étaient venues, empressées, ravies, parées, constellées de pierreries, pour n'assister par ma faute qu'à une fête qui ne différait pas plus essentiellement de celles qui se donnent ailleurs que dans le faubourg Saint-Germain, qu'on ne se sent à Balbec dans une ville qui diffère de ce que nos yeux ont coutume de voir, plusieurs de ces dames se retirèrent, non pas déçues, comme elles auraient dû l'être, mais remerciant avec effusion madame de Guermantes de la délicieuse soirée qu'elles avaient passée. Comme si, les autres jours, ceux où je n'étais pas là, il ne se passait pas autre chose. Était-ce vraiment à cause de dîners tels que celui-ci que toutes ces personnes faisaient toilette et refusaient de laisser pénétrer des bourgeoises dans leur salon si fermé, pour des dîners tels que celui-ci? Pareil si j'avais été absent? J'en eus un instant le soupçon, mais il était trop absurde. Le simple bon sens me permettait de l'écarter. Et puis, si je l'avais accueilli, que serait-il resté du nom de Guermantes, déjà si dégradé depuis Combray? Au reste, ces filles fleurs étaient, à un degré étrange, faciles à être contentées par une autre personne, ou désireuses de la contenter, car plus d'une, à laquelle je n'avais tenu pendant toute la soirée que deux ou trois propos dont la stupidité m'avait fait rougir, tint, avant de quitter le salon, à venir me dire, en fixant sur moi ses beaux yeux caressants, tout en redressant la guirlande d'orchidées qui contournait sa poitrine, quel plaisir intense elle avait eu à me connaître et me parler. Allusion voilée à une invitation à dîner. De son désir d'arranger quelque chose, après qu'elle aurait pris jour avec madame de Guermantes. Aucune de ces dames fleurs ne partit avant la princesse de Parme. La présence de celle-ci, on ne doit pas s'en aller avant une altesse, était une des deux raisons, non devinées par moi, pour lesquelles la duchesse avait mis tant d'insistance à ce que je restasse. Dès que madame de Parme fut levée, ce fut comme une délivrance. Toutes les dames ayant fait une génuflexion devant la princesse, qui les releva, reçurent d'elle dans un baiser et comme une bénédiction qu'elles eussent demandé à genoux, la permission de demander son manteau et ses gens. De sorte que ce fut, devant la porte, comme une récitation criée de grands noms de l'histoire de France. La princesse de Parme avait défendu à madame de Guermantes de descendre l'accompagner jusqu'au vestibule, de peur qu'elle ne prît froid. Et le duc avait ajouté « Voyons, Oriane, puisque madame le permet, rappelez-vous ce que vous a dit le docteur. » « Je crois que la princesse de Parme a été très contente de dîner avec vous. » Je connaissais la formule. le duc avait traversé tout le salon pour venir la prononcer devant moi, d'un air obligeant et pénétré, comme s'il me remettait un diplôme ou m'offrait des petits fours. Et je sentis au plaisir qu'il paraissait éprouver à ce moment-là, et qui donnait une expression momentanément si douce à son visage, que le genre de soins que cela représentait pour lui était de ceux dont il s'acquitterait jusqu'à la fin extrême de sa vie, comme de ces fonctions honorifiques et aisées que, même gâteux, on conserve encore. Au moment où j'allais partir, la dame d'honneur de la princesse rentra dans le salon, ayant oublié d'emporter de merveilleux œillets venus de Guermantes que la duchesse avait donnés à madame de Parme. La dame d'honneur était assez rouge. On sentait qu'elle avait été bousculée, car la princesse, si bonne envers tout le monde, ne pouvait retenir son impatience devant la niaiserie de sa suivante. Aussi, celle-ci courait-elle vite en emportant les œillets. Mais pour garder son air à l'aise et mutin, elle jeta en passant devant moi « La princesse trouve que je suis en retard. Elle voudrait que nous fussions partis et avoir les œillets tout de même. « Dame, je ne suis pas un petit oiseau, je ne peux pas être à plusieurs endroits à la fois. » Hélas, la raison de ne pas se lever avant une altesse n'était pas la seule. Je ne pus pas partir immédiatement, car il y en avait une autre. C'était que ce fameux luxe, inconnu au courvoisier, dont les Guermantes, opulents ou à demi ruinés, excellaient à faire jouir leurs amis, n'était pas qu'un luxe matériel, et comme je l'avais expérimenté souvent avec Robert de Saint-Loup, mais aussi un luxe de paroles charmantes, d'actions gentilles, toute une élégance verbale alimentée par une véritable richesse intérieure. Mais comme celle-ci, dans l'oisiveté mondaine, reste sans emploi, elle s'épanchait parfois, cherchait un dérivatif en une sorte d'effusion fugitive, d'autant plus anxieuse, et qui aurait pu, de la part de madame de Guermantes, faire croire à de l'affection. Elle l'éprouvait d'ailleurs au moment où elle la laissait déborder, car elle trouvait alors, dans la société de l'ami ou de l'ami IE avec qui elle se trouvait, une sorte d'ivresse, nullement sensuelle, analogue à celle que la musique donne à certaines personnes. Il lui arrivait de détacher une fleur de son corsage, un médaillon, et de les donner à quelqu'un avec qui elle eût souhaité de faire durer la soirée, tout en sentant avec mélancolie qu'un tel prolongement n'aurait pu mener à autre chose qu'à de vaines causeries, où rien n'aurait passé du plaisir nerveux de l'émotion passagère, semblables aux premières chaleurs du printemps, par l'impression qu'elle laisse de lassitude et de tristesse. Quant à l'ami, il ne fallait pas qu'il fût trop dupe des promesses, plus grisantes qu'aucune qu'il eût jamais entendues, proférées par ces femmes, qui, parce qu'elles ressentent avec tant de force la douceur d'un moment, font de lui, avec une délicatesse, une noblesse ignorée des créatures normales, un chef-d'œuvre attendrissant de grâce et de bonté, et n'ont plus rien à donner d'elles-mêmes après qu'un autre moment est venu. Leur affection ne survit pas à l'exaltation qui la dicte, et la finesse d'esprit qui les avait amenées alors à deviner toutes les choses que vous désiriez entendre et à vous les dire, leur permettra tout aussi bien, quelques jours plus tard, de saisir vos ridicules et d'en amuser un autre de leurs visiteurs avec lequel elles seront en train de goûter un de ces moments musicaux qui sont si brefs. Dans le vestibule où je demandais à un valet de pied mes snow boots, que j'avais pris par précaution contre la neige, dont il était tombé quelques flocons vite changés en boue, ne me rendant pas compte que c'était peu élégant, j'éprouvais, du sourire dédaigneux de tous, une honte qui atteignit son plus haut degré quand je vis que madame de Parme n'était pas partie et me voyait chaussant mes caoutchoucs américains. La princesse revint vers moi. « Oh, quelle bonne idée ! » s'écria-t-elle. « Comme c'est pratique ! Voilà un homme intelligent. Madame, il faudra que nous achetions cela, dit-elle à sa dame d'honneur, tandis que l'ironie des valets se changeait en respect et que les invités s'empressaient autour de moi pour s'enquérir où j'avais pu trouver ces merveilles. Grâce à cela, vous n'aurez rien à craindre, même s'il reneige et si vous allez loin. Il n'y a plus de saison, me dit la princesse. Oh, à ce point de vue, votre Altesse royale peut se rassurer, interrompit la dame d'honneur d'un air fin. Il ne reneigera pas. Qu'en savez-vous, madame? Demanda aigrement l'excellente princesse de Parme, que seule réussissait à agacer la bêtise de sa dame d'honneur. Je peux l'affirmer à votre Altesse royale, il ne peut pas reneiger, c'est matériellement impossible. Mais pourquoi? Il ne peut plus neiger, on a fait le nécessaire pour cela, on a jeté du sel. La naïve dame ne s'aperçut pas de la colère de la princesse et de la gaieté des autres personnes, car, au lieu de se taire, elle me dit avec un sourire amène, sans tenir compte de mes dénégations au sujet de l'amiral Jurien de la Gravière. D'ailleurs, qu'importe, monsieur doit avoir le pied marin. Bon sang ne peut mentir. Et ayant reconduit la princesse de Parme, monsieur de Guermantes me dit en prenant mon pardessus, « Je vais vous aider à entrer votre pelure. » Il ne souriait même plus en employant cette expression, car celles qui sont le plus vulgaires étaient, par cela même, à cause de l'affectation de simplicité des Guermantes, devenues aristocratiques. Une exaltation n'aboutissant qu'à la mélancolie, parce qu'elle était artificielle, ce fut aussi, quoique tout autrement que madame de Guermantes, ce que je ressentis une fois sortie enfin de chez elle, dans la voiture qui allait me conduire à l'hôtel de monsieur de Charlus. Nous pouvons, à notre choix, nous livrer à l'une ou l'autre de deux forces. L'une s'élève de nous-mêmes, émane de nos impressions profondes, l'autre nous vient du dehors. La première porte naturellement avec elle une joie, celle que dégage la vie des créateurs. L'autre courant, celui qui essaye d'introduire en nous le mouvement dont sont agitées des personnes extérieures, n'est pas accompagné de plaisir. Mais nous pouvons lui en ajouter un, par choc, en retour, en une ivresse si factice qu'elle tourne vite à l'ennui et à la tristesse, d'où le visage morne de tant de mondains, et chez eux tant d'états nerveux qui peuvent aller jusqu'au suicide. Or, dans la voiture qui me menait chez monsieur de Charlus, j'étais en proie à cette seconde sorte d'exaltation, bien différente de celle qui nous est donnée par une impression personnelle, comme celle que j'avais eue dans d'autres voitures, une fois à Combray, dans la carriole du docteur Percepied, d'où j'avais vu se peindre sur le couchant les clochers de Martainville. Un jour, à Balbec, dans la calèche de madame de Villeparisis, en cherchant à démêler la réminiscence que m'offrait une allée d'arbres. Mais, dans cette troisième voiture, ce que j'avais devant les yeux de l'esprit, c'était des conversations qui m'avaient paru si ennuyeuses au dîner de madame de Guermantes. Par exemple, les récits du prince Von sur l'empereur d'Allemagne, sur le général Botha et l'armée anglaise. Je venais de les glisser dans le stéréoscope intérieur, à travers lequel, dès que nous ne sommes plus nous-mêmes, dès que, doués d'une âme mondaine, nous ne voulons plus recevoir notre vie que des autres, nous donnons du relief à ce qu'ils ont dit, à ce qu'ils ont fait. Comme un homme ivre, plein de tendres dispositions pour le garçon de café qui l'a servi, je m'émerveillais de mon bonheur, non ressenti par moi, il est vrai, au moment même, d'avoir dîné avec quelqu'un qui connaissait si bien Guillaume II et avait raconté sur lui des anecdotes, ma foi, fort spirituelles. Et en me rappelant, avec l'accent allemand du prince, l'histoire du général Botha, je riais tout haut, comme si ce rire, pareil à certains applaudissements qui augmentent l'admiration intérieure, était nécessaire à ce récit pour en corroborer le comique. Derrière les verres grossissants, même ceux des jugements de madame de Guermantes qui m'avaient paru bêtes, par exemple sur Franz Hals, qu'il aurait fallu voir d'un tramway, prenait une vie, une profondeur extraordinaire. Et je dois dire que si cette exaltation tomba vite, elle n'était pas absolument insensée. De même que nous pouvons un beau jour être heureux de connaître la personne que nous dédaignons le plus, parce qu'elle se trouve être liée avec une jeune fille que nous aimons, à qui elle peut nous présenter, et nous offre ainsi de l'utilité et de l'agrément, chose dont nous l'aurions cru à jamais dénuée. Il n'y a pas de propos, pas plus que de relations, dont on puisse être certain qu'on ne tirera pas un jour quelque chose. Ce que m'avait dit madame de Guermantes sur les tableaux qui seraient intéressants à voir, même d'un tramway, était faux, mais contenait une part de vérité qui me fut précieuse dans la suite. De même, les vers de Victor Hugo qu'elle m'avait cités étaient, il faut l'avouer, d'une époque antérieure à celle où il est devenu plus qu'un homme nouveau, où il a fait apparaître dans l'évolution une espèce littéraire encore inconnue, douée d'organes plus complexes. Dans ses premiers poèmes, Victor Hugo pense encore, au lieu de se contenter, comme la nature, de donner à penser. Des pensées, il en exprimait alors, sous la forme la plus directe, presque dans le sens où le duc prenait le mot, quand, trouvant vieux jeu et encombrant que les invités de ces grandes fêtes à Guermantes fissent, sur l'album du château, suivre leur signature d'une réflexion philosophico-poétique, il avertissait les nouveaux venus d'un ton suppliant « Votre nom, mon cher, mais pas de pensée. » Or, c'était ces pensées de Victor Hugo, presque aussi absentes de la légende des siècles que les airs, les mélodies, dans la deuxième manière wagnérienne, que madame de Guermantes aimait dans le premier Hugo. Mais pas absolument à tort. Elles étaient touchantes, et déjà autour d'elles, sans que la forme eût encore la profondeur où elle ne devait parvenir que plus tard, le déferlement des mots nombreux et des rimes richement articulées les rendait inassimilables à ces vers qu'on peut découvrir dans un Corneille, par exemple, et où un romantisme intermittent, contenu, et qui nous émeut d'autant plus, n'a point pourtant pénétré jusqu'aux sources physiques de la vie, modifié l'organisme inconscient et généralisable où s'abrite l'idée. Aussi avais-je eu tort de me confiner jusqu'ici dans les derniers recueils d'Hugo. Des premiers, certes, c'était seulement d'une part infime que s'ornait la conversation de madame de Guermantes. Mais justement, en citant ainsi un vers isolé, on décuple sa puissance attractive. Ceux qui étaient entrés ou rentrés dans ma mémoire au cours de ce dîner aimantaient à leur tour, appelaient à eux avec une telle force les pièces au milieu desquelles ils avaient l'habitude d'être enclavés, que mes mains électrisées ne purent pas résister plus de 48 heures à la force qui les conduisait vers le volume où étaient reliées les orientales et les chants du crépuscule. Je maudis le valet de pied de Françoise d'avoir fait don à son pays natal de mon exemplaire des feuilles d'automne, et je l'envoyai sans perdre un instant en acheter un autre. Je relus ces volumes d'un bout à l'autre, et ne retrouvai la paix que quand j'aperçus tout d'un coup, m'attendant dans la lumière où elle les avait baignés, les vers que m'avait cités madame de Guermantes. Pour toutes ces raisons, les causeries avec la duchesse ressemblaient à ces connaissances qu'on puise dans une bibliothèque de château, surannées, incomplètes, incapables de former une intelligence, dépourvues de presque tout ce que nous aimons, mais nous offrant parfois quelques renseignements curieux, voire la citation d'une belle page que nous ne connaissions pas, et dont nous sommes heureux dans la suite de nous rappeler que nous en devons la connaissance à une magnifique demeure seigneuriale. Nous sommes alors, pour avoir trouvé la préface de Balzac à la Chartreuse ou des lettres inédites de Joubert, tentés de nous exagérer le prix de la vie que nous y avons menée et dont nous oublions, pour cette aubaine d'un soir, la frivolité stérile. À ce point de vue, si le monde n'avait pu au premier moment répondre à ce qu'attendait mon imagination, et devait par conséquent me frapper d'abord par ce qu'il y avait de commun avec tous les mondes, plutôt que par ce qu'il en avait de différent, pourtant il se révéla à moi peu à peu comme bien distinct. Les grands seigneurs sont presque les seuls gens de qui on apprenne autant que des paysans. Leur conversation s'orne de tout ce qui concerne la terre, les demeures telles qu'elles étaient habitées autrefois, les anciens usages, tout ce que le monde de l'argent ignore profondément. À supposer que l'aristocrate le plus modéré par ses aspirations ait fini par rattraper l'époque où il vit, sa mère, ses oncles, ses grands-tantes le mettent en rapport, quand il se rappelle son enfance, avec ce que pouvait être une vie presque inconnue aujourd'hui. Dans la chambre mortuaire d'un mort d'aujourd'hui, Madame de Guermantes n'eut pas fait remarquer, mais eut saisi immédiatement tous les manquements faits aux usages. Elle était choquée de voir, à un enterrement, des femmes mêlées aux hommes, alors qu'il y a une cérémonie particulière qui doit être célébrée pour les femmes. Quant aux poils, dont Bloch eut cru sans doute que l'usage était réservé aux enterrements, à cause des cordons du poil dont on parle dans les comptes rendus d'obsèques, M. de Guermantes pouvait se rappeler le temps où, encore enfant, il l'avait vu tenir au mariage de M. de Meillinel. Tandis que Saint-Loup avait vendu son précieux « arbre généalogique » d'anciens portraits des Bouillons, des lettres de Louis XIII, pour acheter des carrières et des meubles modernes style. M. et Mme de Guermantes, émus par un sentiment où l'amour ardent de l'art jouait peut-être un moindre rôle et qui les laissait eux-mêmes plus médiocres, avaient gardé leurs merveilleux meubles de boule, qui offraient un ensemble autrement séduisant pour un artiste. Un littérateur eût de même été enchanté de leur conversation, qui eût été pour lui, car l'affamé n'a pas besoin d'un autre affamé, un dictionnaire vivant de toutes ces expressions qui, chaque jour, s'oublient davantage. Des cravates à la Saint-Joseph, des enfants voués au bleu, etc. Et qu'on ne trouve plus que chez ceux qui se font les aimables et bénévoles conservateurs du passé. Le plaisir que ressent parmi eux, beaucoup plus que parmi d'autres écrivains, un écrivain, ce plaisir n'est pas sans danger. Car il risque de croire que les choses du passé ont un charme par elles-mêmes, de les transporter telles quelles dans son œuvre, mort-née dans ce cas, dégageant un ennui dont il se console en se disant « C'est joli parce que c'est vrai, cela se dit ainsi ». Ces conversations aristocratiques avaient du reste, chez Madame de Guermantes, le charme de se tenir dans un excellent français. À cause de cela, elle rendait légitime, de la part de la duchesse, son hilarité devant les mots « vatique, cosmique, pitique, suréminent » qu'employait Saint-Loup, de même que devant ses meubles de chez Bing. Malgré tout, bien différentes en cela de ce que j'avais pu ressentir devant des aubépines ou en goûtant à une madeleine, les histoires que j'avais entendues chez Madame de Guermantes m'étaient étrangères. Entrées un instant en moi, qui n'en était que physiquement possédée, on aurait dit que, de nature sociale et non individuelle, elles étaient impatientes d'en sortir. Je m'agitais dans la voiture comme une pythonisse. J'attendais un nouveau dîner où je pusse devenir moi-même une sorte de prince X de Madame de Guermantes, et les raconter. En attendant, elle faisait trépider mes lèvres qui les balbutiaient, et j'essayais en vain de ramener à moi mon esprit vertigineusement emporté par une force centrifuge. Aussi, est-ce avec une fiévreuse impatience de ne pas porter plus longtemps leur poids tout seul dans une voiture, où d'ailleurs je trompais le manque de conversation en parlant tout haut, que je sonnai à la porte de monsieur de Charlus. Et ce fut en long monologue avec moi-même, où je me répétais tout ce que j'allais lui narrer, et ne pensais plus guère à ce qu'il pouvait avoir à me dire, que je passai tout le temps que je restais dans un salon, où un valet de pied me fit entrer, et que j'étais d'ailleurs trop agité pour regarder. J'avais un tel besoin que monsieur de Charlus écoutât les récits que je brûlais de lui faire, que je fus cruellement déçu en pensant que le maître de la maison dormait peut-être, et qu'il me faudrait rentrer cuver chez moi mon ivresse de parole. Je venais en effet de m'apercevoir qu'il y avait 25 minutes que j'étais, qu'on m'avait peut-être oublié, dans ce salon, dont, malgré cette longue attente, j'aurais tout au plus pu dire qu'il était immense, verdâtre, avec quelques portraits. Le besoin de parler n'empêche pas seulement d'écouter, mais de voir. Et dans ce cas, l'absence de toute description du milieu extérieur est déjà une description d'un état interne. J'allais sortir du salon pour tâcher d'appeler quelqu'un et, si je ne trouvais personne, de retrouver mon chemin jusqu'aux antichambres et me faire ouvrir, quand, au moment même où je venais de me lever et de faire quelques pas sur le parquet mosaïqué, un valet de chambre entra, l'air préoccupé. « Monsieur le baron a eu des rendez-vous jusqu'à maintenant, » me dit-il. « Il y a encore plusieurs personnes qui l'attendent. Je vais faire tout mon possible pour qu'il reçoive monsieur. J'ai déjà fait téléphoner 2 fois au secrétaire. » « Non, ne vous dérangez pas. J'avais rendez-vous avec monsieur le baron, mais il est déjà bien tard. Et du moment qu'il est occupé ce soir, je reviendrai un autre jour. » « Oh non, que monsieur ne s'en aille pas !» s'écria le valet de chambre. « Monsieur le baron pourrait être mécontent. Je vais de nouveau essayer. » Je me rappelais ce que j'avais entendu raconter des domestiques de monsieur de Charlus et de leur dévouement à leur maître. On ne pouvait pas tout à fait dire de lui, comme du prince de Conti, qu'il cherchait à plaire aussi bien au valet qu'au ministre. Mais il avait si bien su faire des moindres choses qu'il demandait une espèce de faveur, que le soir, quand ses valets assemblés autour de lui à distance respectueuse, après les avoir parcourus du regard, il disait « Coignez le bougeoir » ou « Ducret la chemise ». C'est en ronchonnant d'envie que les autres se retiraient, envieux de celui qui venait d'être distingué par le maître. 2 même, lesquels s'exécraient, essayaient chacun de ravir la faveur à l'autre, en allant, sous le plus absurde prétexte, faire une commission au baron, s'il était monté plus tôt, dans l'espoir d'être investi pour ce soir-là de la charge du bougeoir ou de la chemise. S'il adressait directement la parole à l'un d'eux pour quelque chose qui ne fût pas du service, bien plus, si l'hiver au jardin, sachant un de ses cochers enrhumé, il lui disait au bout de 10 minutes « Couvrez-vous !» Les autres ne lui reparlaient pas de 15 jours, par jalousie, à cause de la grâce qui lui avait été faite. J'attendis encore 10 minutes, et après m'avoir demandé de ne pas rester trop longtemps, parce que monsieur le baron, fatigué, avait dû faire et conduire plusieurs personnes des plus importantes, qui avaient pris rendez-vous depuis de longs jours, on m'introduisit auprès de lui. Cette mise en scène autour de monsieur de Charlus me paraissait empreinte de beaucoup moins de grandeur que la simplicité de son frère Guermantes. Mais déjà, la porte s'était ouverte, je venais d'apercevoir le baron, en robe de chambre chinoise, le cou nu, étendu sur un canapé. Je fus frappé au même instant par la vue d'un chapeau haut de forme, 8 reflets, sur une chaise avec une pelisse, comme si le baron venait de rentrer. Le valet de chambre se retira. Je croyais que monsieur de Charlus allait venir à moi. Sans faire un seul mouvement, il fixa sur moi des yeux implacables. Je m'approchai de lui, lui dis bonjour, il ne me tendit pas la main, ne me répondit pas, ne me demanda pas de prendre une chaise. Au bout d'un instant, je lui demandai, comme on ferait à un médecin mal élevé, et s'il était nécessaire que je restasse debout. Je le fis sans méchante intention, mais l'air de colère froide qu'avait monsieur de Charlus sembla s'aggraver encore. J'ignorais, du reste, que chez lui, à la campagne, au château de Charlus, il avait l'habitude, après dîner, tant il aimait à jouer au roi, de s'étaler dans un fauteuil au fumoir, en laissant ses invités debout autour de lui. Il demandait à l'un du feu, offrait à l'autre un cigare, puis au bout de quelques instants disait « Mais, Argencourt, asseyez-vous donc, prenez une chaise, mon cher, etc. » Ayant tenu à prolonger leur station debout, seulement pour leur montrer que c'était de lui que leur venait la permission de s'asseoir. « Mettez-vous dans le siège Louis XIV !» me répondit-il d'un air impérieux, et plutôt pour me forcer à m'éloigner de lui que pour m'inviter à m'asseoir. Je pris un fauteuil qui n'était pas loin. « Ah ! Voilà ce que vous appelez un siège Louis XIV ! Je vois que vous êtes instruit !» s'écria-t-il avec dérision. J'étais tellement stupéfait que je ne bougeais pas, ni pour m'en aller, comme je l'aurais dû, ni pour changer de siège comme il le voulait. « Monsieur, me dit-il en pesant tous les termes, dont il faisait précéder les plus impertinents d'une double paire de consonnes, l'entretien que j'ai condescendu à vous accorder, à la prière d'une personne qui désire que je ne la nomme pas, marquera pour nos relations le point final. Je ne vous cacherai pas que j'avais espéré mieux. Je forcerai peut-être un peu le sens des mots, ce qu'on ne doit pas faire, même avec qui ignore leur valeur, et par simple respect pour soi-même, en vous disant que j'avais eu pour vous de la sympathie. Je crois pourtant que bienveillance, dans son sens le plus efficacement protecteur, n'excéderait ni ce que je ressentais, ni ce que je me proposais de manifester. Je vous avais, dès mon retour à Paris, fait savoir à Balbec même que vous pouviez compter sur moi. Moi, qui me rappelais sur quelle incartade monsieur de Charlus s'était séparé de moi à Balbec, j'esquissai un geste de dénégation. « Comment ? » s'écria-t-il avec colère. Et en effet, son visage convulsé et blanc différait autant de son visage ordinaire que la mer, quand, un matin de tempête, on aperçoit, au lieu de la souriante surface habituelle, 1000 serpents d'écume et de bave. « Vous prétendez que vous n'avez pas reçu mon message ? Presque une déclaration, d'avoir à vous souvenir de moi ? Qu'y avait-il comme décoration autour du livre que je vous fis parvenir ?» De très jolis entrelacs historiés, lui dis-je. Ah, répondit-il d'un air méprisant, les jeunes Français connaissent peu les chefs-d'œuvre de notre pays. Que dirait-on d'un jeune Berlinois qui ne connaîtrait pas la Walkyrie ? Il faut d'ailleurs que vous ayez des yeux pour ne pas voir, puisque ce chef-d'œuvre-là, vous m'avez dit que vous aviez passé 2 heures devant. Je vois que vous ne vous y connaissez pas mieux en fleurs qu'en style. Ne protestez pas pour les styles, cria-t-il d'un ton de rage suraigu. Vous ne savez même pas sur quoi vous vous asseyez. Vous offrez à votre derrière une chauffeuse directoire pour une bergère Louis XIV. Un de ces jours, vous prendrez les genoux de madame de Villeparisis pour le lavabo, et on ne sait pas ce que vous y ferez. Pareillement, vous n'avez même pas reconnu dans la reliure du livre de Bergotte le linteau de myosotis de l'église de Balbec. Y avait-il une manière plus limpide de vous dire « Ne m'oubliez pas » Je regardais monsieur de Charlus. Certes, sa tête magnifique, et qui répugnait, l'emportait pourtant sur celle de tous les siens. On eût dit « Apollon vieilli ». mais un jus olivâtre, hépatique, semblait prêt à sortir de sa bouche mauvaise. Pour l'intelligence, on ne pouvait nier que la sienne, par un vaste écart de compas, avait vu sur beaucoup de choses qui resteraient toujours inconnues au duc de Guermantes. Mais de quelques belles paroles qu'il colora ses haines, on sentait que, même s'il y avait tantôt de l'orgueil offensé, tantôt un amour déçu, ou une rancune, du sadisme, une taquinerie, une idée fixe, cet homme était capable d'assassiner et de prouver à force de logique et de beau langage qu'il avait eu raison de le faire, et n'en était pas moins supérieur de 100 coudées à son frère, sa belle-sœur, etc., etc. Comme dans les lances de Velasquez, continua-t-il, le vainqueur s'avance vers celui qui est le plus humble, comme le doit tout être noble, puisque j'étais tout et que vous n'étiez rien. C'est moi qui ai fait les premiers pas vers vous. Vous avez sottement répondu à ce que ce n'est pas à moi à appeler de la grandeur. Mais je ne me suis pas laissé décourager. Notre religion prêche la patience. Celle que j'ai eue envers vous me sera comptée, je l'espère. Et de n'avoir fait que sourire de ce qui pourrait être taxé d'impertinence, s'il était à votre portée d'en avoir envers qui vous dépasse de tant de coudées. Mais enfin, monsieur, de tout cela, il n'est plus question. Je vous ai soumis à l'épreuve que le seul homme éminent de notre monde appelle avec esprit l'épreuve de la trop grande amabilité, et qu'il déclare à bon droit la plus terrible de toutes, la seule qui puisse séparer le bon grain de l'ivraie. Je vous reprocherai à peine de l'avoir subi sans succès, car ceux qui en triomphent sont bien rares. Mais du moins, et c'est la conclusion que je prétends tirer des dernières paroles que nous échangerons sur terre, j'entends être à l'abri de vos inventions calomniatrices. Je n'avais pas songé jusqu'ici que la colère de monsieur de Charlus pût être causée par un propos désobligeant qu'on lui eût répété. J'interrogeai ma mémoire. Je n'avais parlé de lui à personne. Quelque méchant l'avait fabriqué de toutes pièces. Je protestai à monsieur de Charlus que je n'avais absolument rien dit de lui. Je ne pense pas que j'aie pu vous fâcher en disant à madame de Guermantes que j'étais lié avec vous. Il sourit avec dédain, fit monter sa voix jusqu'au plus extrême registre, et là, attaquant avec douceur la note la plus aiguë et la plus insolente, « Oh, monsieur !» dit-il en revenant avec une extrême lenteur à une intonation naturelle, et comme s'enchantant, au passage, des bizarreries de cette gamme descendante. « Je pense que vous vous faites tort à vous-même en vous accusant d'avoir dit que nous étions liés. Je n'attends pas une très grande exactitude verbale de quelqu'un qui prendrait facilement un meuble de Chippendale pour une chaise rococo. Mais enfin, je ne pense pas, » ajouta-t-il, avec des caresses vocales de plus en plus narquoises et qui faisaient flotter sur ses lèvres jusqu'à un charmant sourire. « Je ne pense pas que vous ayez dit ni cru que nous étions liés. Quant à vous être vanté de m'avoir été présenté, d'avoir causé avec moi, de me connaître un peu, d'avoir obtenu, presque sans sollicitation, de pouvoir être un jour mon protégé, je trouve au contraire fort naturel et intelligent que vous l'ayez fait. L'extrême différence d'âge qu'il y a entre nous me permet de reconnaître, sans ridicule, que cette présentation, ces causeries, cette vague amorce de relation étaient pour vous. Ce n'est pas à moi de dire un honneur, mais enfin, à tout le moins, un avantage, dont je trouve que votre sottise fut non point de l'avoir divulgué, mais de n'avoir pas su le conserver. J'ajouterai même, dit-il, en passant brusquement, et pour un instant, de la colère hautaine à une douceur tellement empreinte de tristesse que je croyais qu'il allait se mettre à pleurer. Que, quand vous avez laissé sans réponse la proposition que je vous ai faite à Paris, Cela m'a paru tellement inouï de votre part, à vous, qui m'aviez semblé bien élevée et d'une bonne famille bourgeoise. » Sur cet adjectif seul, sa voix eut un petit sifflement d'impertinence. « Que j'eus la naïveté de croire à toutes les blagues qui n'arrivent jamais, aux lettres perdues, aux erreurs d'adresse. Je reconnais que c'était de ma part une grande naïveté. Mais Saint Bonaventure préférait croire qu'un bœuf pût voler, plutôt que son frère mentir. Enfin, tout cela est terminé. La chose ne vous a pas plu, il n'en est plus question. Il me semble seulement que vous auriez pu... » Et il y avait vraiment des pleurs dans sa voix. « Ne fût-ce que par considération pour mon âge, m'écrire. J'avais conçu pour vous des choses infiniment séduisantes que je m'étais bien gardée de vous dire. Vous avez préféré refuser sans savoir. C'est votre affaire. Mais, comme je vous le dis, on peut toujours écrire. Moi, à votre place, et même dans la mienne, je l'aurais fait. J'aime mieux, à cause de cela, la mienne que la vôtre. Je dis « à cause de cela » parce que je crois que toutes les places sont égales, et j'ai plus de sympathie pour un intelligent ouvrier que pour bien des ducs. Mais je peux vous dire que je préfère ma place, parce que ce que vous avez fait, dans ma vie tout entière, qui commence à être assez longue, je sais que je ne l'ai jamais fait. » Sa tête était tournée dans l'ombre, je ne pouvais pas voir si ses yeux laissaient tomber des larmes, comme sa voix donnait à le croire. « Je vous disais que j'ai fait 100 pas au-devant de vous. Cela a eu pour effet de vous en faire 200 en arrière. Maintenant, c'est à moi de m'éloigner et nous ne nous connaîtrons plus. Je ne retiendrai pas votre nom, mais votre cas, afin que... les jours où je serai tenté de croire que les hommes ont du cœur, de la politesse, ou seulement l'intelligence de ne pas laisser échapper une chance sans seconde, je me rappelle que c'est les situer trop haut. Non, que vous ayez dit que vous me connaissiez quand c'était vrai, car maintenant cela va cesser de l'être, je ne puis trouver cela que naturel, et je le tiens pour un hommage, c'est-à-dire pour agréable. Malheureusement, ailleurs et en d'autres circonstances, vous avez tenu des propos fort différents. Monsieur, je vous jure que je n'ai rien dit qui pût vous offenser. Mais qui vous dit que j'en suis offensé ? S'écria-t-il avec fureur en se redressant violemment sur la chaise longue où il était resté jusque-là immobile. Cependant que, tandis que se crispaient les blêmes serpents écumeux de sa face, sa voix devenait tour à tour aiguë et grave, comme une tempête assourdissante et déchaînée. La force avec laquelle il parlait d'habitude, et qui faisait se retourner les inconnus dehors, était centuplée, comme l'est un forte, si au lieu d'être joué au piano, il l'est à l'orchestre, et de plus se change en un fortissime. Monsieur de Charlus hurlait. « Pensez-vous qu'il soit à votre portée de m'offenser ? Vous ne savez donc pas à qui vous parlez. Croyez-vous que la salive envenimée de 500 petits bonshommes de vos amis, juchés les uns sur les autres, arriverait à baver seulement jusqu'à mes augustes orteils ? » Depuis un moment, au désir de persuader M. de Charlus que je n'avais jamais dit ni entendu dire de mal de lui, avait succédé une rage folle, causée par les paroles que lui dictait uniquement, selon moi, son immense orgueil. Presque tout le reste venait d'un sentiment que j'ignorais encore, et auquel je ne fus donc pas coupable de ne pas faire sa part. J'aurais pu au moins, à défaut du sentiment inconnu, mêler à l'orgueil, si je m'étais souvenu des paroles de Madame de Guermantes, un peu de folie. Mais à ce moment-là, l'idée de folie ne me vint même pas à l'esprit. Il n'y avait en lui, selon moi, que de l'orgueil. En moi, il n'y avait que de la fureur. Celle-ci, au moment où M. de Charlus, cessant de hurler pour parler de ses augustes orteils, avec une majesté qu'accompagnait une moue, un vomissement de dégoût à l'égard de ses obscurs blasphémateurs, cette fureur ne se contint plus. D'un mouvement impulsif, je voulus frapper quelque chose, et un reste de discernement me faisant respecter un homme tellement plus âgé que moi, et même, à cause de leur dignité artistique, les porcelaines allemandes placées autour de lui, je me précipitai sur le chapeau haut de forme neuf du baron. Je le jetai par terre, je le piétinai, je m'acharnai à le disloquer entièrement. J'arrachai la coiffe, déchirai en deux la couronne, sans écouter les vociférations de monsieur de Charlus, qui continuait, et, traversant la pièce pour m'en aller, j'ouvris la porte. Des deux côtés d'elle, à ma grande stupéfaction, se tenaient deux valets de pied qui s'éloignèrent lentement pour avoir l'air de s'être trouvés là seulement en passant pour leur service. J'ai su depuis leur nom, l'un s'appelait Burnier et l'autre Charmel. Je ne fus pas dupe un instant de cette explication que leur démarche nonchalante semblait me proposer. Elle était invraisemblable. Trois autres me le semblèrent moins. L'une, que le baron recevait quelquefois des hôtes, contre lesquels, pouvant avoir besoin d'aide, mais pourquoi ? Il jugeait nécessaire d'avoir un poste de secours voisin. L'autre, qu'attiré par la curiosité, il s'était mis aux écoutes, ne pensant pas que je sortirais si vite. La troisième, que toute la scène que m'avait faite monsieur de Charlus étant préparée et jouée, il leur avait lui-même demandé d'écouter, par amour du spectacle, joint peut-être à un « nunc erudimini » dont chacun ferait son profit. Ma colère n'avait pas calmé celle du baron. Ma sortie de la chambre parut lui causer une vive douleur. Il me rappela, me fit rappeler, et enfin, oubliant qu'un instant auparavant, en parlant de ses augustes orteils, il avait cru me faire le témoin de sa propre déification, il courut à toutes jambes, me rattrapa dans le vestibule et me barra la porte. « Allons, me dit-il, ne faites pas l'enfant, rentrez une minute. Qui aime bien châtie bien, et si je vous ai bien châtié, c'est que je vous aime bien. » Ma colère était passée. Je laissai passer le mot « châtié » et suivis le baron, qui, appelant un valet de pied, fit sans aucun amour-propre emporter les miettes du chapeau détruit qu'on remplaça par un autre. « Si vous voulez me dire, monsieur, qui m'a perfidement calomnié, dis-je à monsieur de Charlus, je reste pour l'apprendre et confondre l'imposteur. Qui ? Ne le savez-vous pas ? Ne gardez-vous pas le souvenir de ce que vous dites ? Pensez-vous que les personnes qui me rendent le service de m'avertir de ces choses ne commencent pas par me demander le secret ? Et croyez-vous que je vais manquer à celui que j'ai promis ? Monsieur, c'est impossible que vous me le disiez, demandai-je en cherchant une dernière fois dans ma tête, où je ne trouvais personne, à qui j'avais pu parler de monsieur de Charlus. Vous n'avez pas entendu que j'ai promis le secret à mon indicateur ? Me dit-il d'une voix claquante. Je vois qu'au goût des propos abjects, vous joignez celui des insistances vaines. Vous devriez avoir au moins l'intelligence de profiter d'un dernier entretien et de parler pour dire quelque chose qui ne soit pas exactement rien. Monsieur, répondis-je en m'éloignant, vous m'insultez. Je suis désarmé puisque vous avez plusieurs fois mon âge. La partie n'est pas égale. D'autre part, je ne peux pas vous convaincre. Je vous ai juré que je n'avais rien dit. « Alors je mens » s'écria-t-il d'un ton terrible, et en faisant un tel bond qu'il se trouva debout à deux pas de moi. « On vous a trompé. » Alors, d'une voix douce, affectueuse, mélancolique, comme dans ces symphonies qu'on joue sans interruption entre les divers morceaux, et où un gracieux scherzo aimable, idyllique, succède au coup de foudre du premier morceau. « C'est très possible, me dit-il. En principe, un propos répété est rarement vrai. C'est votre faute, si, n'ayant pas profité des occasions de me voir que je vous avais offertes, vous ne m'avez pas fourni, par ces paroles ouvertes et quotidiennes qui créent la confiance, le préservatif unique et souverain contre une parole qui vous représentait comme un traître. En tout cas, vrai ou faux, le propos a fait son œuvre. Je ne peux plus me dégager de l'impression qu'il m'a produite. Je ne peux même pas dire que qui aime bien châtie bien, car je vous ai bien châtié, mais je ne vous aime plus. » Tout en disant ces mots, il m'avait forcé à me rasseoir et avait sonné. Un nouveau valet de pied entra. « Apportez à boire et dites d'atteler le coupé. » Je dis que je n'avais pas soif, qu'il était bien tard et que d'ailleurs j'avais une voiture. « On l'a probablement payé et renvoyé, » me dit-il. « Ne vous en occupez pas, je fais atteler pour qu'on vous ramène. Si vous craignez qu'il ne soit trop tard, j'aurais pu vous donner une chambre ici. » Je dis que ma mère serait inquiète. « Ah oui, vrai ou faux, le propos a fait son œuvre. Ma sympathie un peu prématurée avait fleuri trop tôt. Et comme ces pommiers dont vous parliez poétiquement à Balbec, elle n'a pu résister à une première gelée. » Si la sympathie de monsieur de Charlus n'avait pas été détruite, il n'aurait pourtant pas pu agir autrement, puisque, tout en me disant que nous étions brouillés, il me faisait rester, boire, me demander de coucher et aller me faire reconduire. Il avait même l'air de redouter l'instant de me quitter et de se retrouver seul. Cette espèce de crainte un peu anxieuse que sa belle-sœur et cousine Guermantes m'avait paru éprouver, il y avait une heure, quand elle avait voulu me forcer à rester encore un peu, avec une espèce de même goût passager pour moi, de même effort pour faire prolonger une minute. « Malheureusement, reprit-il, je n'ai pas le don de faire refleurir ce qui a été une fois détruit. Ma sympathie pour vous est bien morte. Rien ne peut la ressusciter. Je crois qu'il n'est pas indigne de moi de confesser que je le regrette. Je me sens toujours un peu comme le Boz de Victor Hugo. Je suis veuf, je suis seul, et sur moi, le soir tombe. » Je traversai avec lui le grand salon verdâtre. Je lui dis, tout à fait au hasard, combien je le trouvais beau. « N'est-ce pas ? » me répondit-il. « Il faut bien aimer quelque chose. Les boiseries sont de bagarre. Ce qui est assez gentil, voyez-vous, c'est qu'elles ont été faites pour les sièges de Beauvais et pour les consoles. Vous remarquez, elles répètent le même motif décoratif que... Il n'existait plus que deux demeures où cela soit ainsi. Le Louvre et la maison de M. d'Inisdal. Mais naturellement, dès que j'ai voulu venir habiter dans cette rue, il s'est trouvé un vieil hôtel chimé que personne n'avait jamais vu, puisqu'il n'est venu ici que pour moi. En somme, c'est bien. Ça pourrait peut-être être mieux, mais enfin, ce n'est pas mal. N'est-ce pas ? Il y a de jolies choses. Le portrait de mes oncles, le roi de Pologne et le roi d'Angleterre, par Mignard. « Mais qu'est-ce que je vous dis ? Vous le savez aussi bien que moi, puisque vous avez attendu dans ce salon, non ? Ah, c'est qu'on vous aura mis dans le salon bleu » dit-il d'un air soit d'impertinence à l'endroit de mon incuriosité, soit de supériorité personnelle et de n'avoir pas demandé où on m'avait fait attendre. « Tenez, dans ce cabinet, il y a tous les chapeaux portés par Madame Élisabeth, la princesse de Lamballe, et par la reine. » « Cela ne vous intéresse pas. On dirait que vous ne croyez pas. Peut-être êtes-vous atteint d'une affection du nerf optique. Si vous aimez davantage ce genre de beauté, voici un arc-en-ciel de Turner qui commence à briller entre ces deux Rembrandts en signe de notre réconciliation. Vous entendez ? Beethoven se joint à lui. » Et en effet, on distinguait les premiers accords de la troisième partie de la symphonie pastorale, La joie après l'orage, exécutée non loin de nous, au premier étage sans doute, par des musiciens. Je demandai naïvement par quel hasard on jouait cela et qui étaient les musiciens. « Eh bien, on ne sait pas, on ne sait jamais. Ce sont des musiciens invisibles. C'est joli, n'est-ce pas ? » me dit-il d'un ton légèrement impertinent et qui pourtant rappelait un peu l'influence et l'accent de Swann. « Mais vous vous en fichez comme un poisson d'une pomme. Vous voulez rentrer, quitte à manquer de respect à Beethoven et à moi. Vous portez contre vous-même jugement et condamnation. » ajouta-t-il d'un air affectueux et triste, quand le moment fut venu que je m'en allasse. Vous m'excuserez de ne pas vous reconduire comme les bonnes façons m'obligeraient à le faire, me dit-il. Désireux de ne plus vous revoir, il n'importe peu de passer 5 minutes de plus avec vous. Mais je suis fatigué et j'ai fort à faire. Cependant, remarquant que le temps était beau, « Eh bien, si, je vais monter en voiture. Il fait un clair de lune superbe que j'irai regarder au bois après vous avoir reconduit. « Comment ? Vous ne savez pas vous raser ? Même un soir où vous dînez en ville, vous gardez quelques poils !» me dit-il en me prenant le menton entre deux doigts, pour ainsi dire magnétisé, qui, après avoir résisté un instant, remontèrent jusqu'à mes oreilles, comme les doigts d'un coiffeur. « Ah, ce serait agréable de regarder ce clair de lune bleue au bois avec quelqu'un comme vous !» me dit-il avec une douceur subite et comme involontaire. Puis, l'air triste, « Car vous êtes gentil tout de même. Vous pourriez l'être plus que personne !» ajouta-t-il en me touchant paternellement l'épaule. « Autrefois, je dois dire que je vous trouvais bien insignifiant. » J'aurais dû penser qu'il me trouvait tel encore. Je n'avais qu'à me rappeler la rage avec laquelle il m'avait parlé il y avait à peine une demi-heure. Malgré cela, j'avais l'impression qu'il était, en ce moment, sincère, que son bon cœur l'emportait sur ce que je considérais comme un état presque délirant de susceptibilité et d'orgueil. La voiture était devant nous, et il prolongeait encore la conversation. « Allons, » dit-il brusquement, « montez. Dans 5 minutes, nous allons être chez vous, et je vous dirai un bonsoir qui coupera court et pour jamais à nos relations. C'est mieux, puisque nous devons nous quitter pour toujours, que nous le fassions comme en musique, sur un accord parfait. » Malgré ces affirmations solennelles que nous ne nous reverrions jamais, j'aurais juré que M. de Charlus, ennuyé de s'être oublié tout à l'heure et craignant de m'avoir fait de la peine, n'eût pas été fâché de me revoir encore une fois. Je ne me trompais pas, car au bout d'un moment, « Allons bon, » dit-il, « voilà que j'ai oublié le principal. En souvenir de Madame votre grand-mère, j'avais fait relier pour vous une édition curieuse de Madame de Sévigné. Voilà qui va empêcher cette entrevue d'être la dernière. Il faut s'en consoler, en se disant qu'on liquide rarement en un jour des affaires compliquées. Regardez combien de temps a duré le congrès de Vienne. Mais je pourrais la faire chercher sans vous déranger, » dis-je obligeamment. « Voulez-vous vous taire, petit sot ? » répondit-il avec colère. Et ne pas avoir l'air grotesque de considérer comme peu de chose l'honneur d'être probablement, je ne dis pas certainement, car c'est peut-être un valet de chambre qui vous remettra les volumes, reçu par moi. Il se ressaisit. Je ne veux pas vous quitter sur ces mots. Pas de dissonance avant le silence éternel de la corde dominante. C'est pour ses propres nerfs qu'il semblait redouter son retour immédiatement après d'âcres paroles de brouille. « Vous ne vouliez pas venir jusqu'au bois ?» me dit-il d'un ton non pas interrogatif, mais affirmatif, et à ce qu'il me sembla, non pas parce qu'il ne voulait pas me l'offrir, mais parce qu'il craignait que son amour-propre n'essuyât un refus. « Eh bien voilà !» me dit-il en traînant encore. C'est le moment où, comme dit Whistler, les bourgeois rentrent. Peut-être voulait-il me prendre par l'amour-propre, et où il convient de commencer à regarder. Mais vous ne savez même pas qui est Whistler. Je changeai de conversation et lui demandai si la princesse Diana était une personne intelligente. Monsieur de Charlus m'arrêta, et, prenant le ton le plus méprisant que je lui connusse, « Ah, monsieur, vous faites allusion ici à un ordre de nomenclature où je n'ai rien à voir. Il y a peut-être une aristocratie chez les Tahitiens, mais j'avoue que je ne la connais pas. Le nom que vous venez de prononcer, c'est étrange, a cependant résonné il y a quelques jours à mes oreilles. On me demandait si je condescendrais à ce que me fût présenté le jeune duc de Guastalla. » La demande m'étonna, car le duc de Guastalla n'a nul besoin de se faire présenter à moi, pour la raison qu'il est mon cousin et me connaît de tout temps. C'est le fils de la princesse de Parme, et en jeune parent bien élevé, il ne manque jamais de venir me rendre ses devoirs le jour de l'an. Mais, information prise, il ne s'agissait pas de mon parent, mais d'un fils de la personne qui vous intéresse. Comme il n'existe pas de princesse de ce nom, j'ai supposé qu'il s'agissait d'une pauvresse couchant sous le pont d'Iéna, et qui avait pris pittoresquement le titre de princesse d'Iéna, comme on dit la panthère des Batignolles ou le roi de l'acier. Mais non, il s'agissait d'une personne riche, dont j'avais admiré à une exposition des meubles fort beaux, et qui ont, sur le nom du propriétaire, la supériorité de ne pas être faux. Quant au prétendu duc de Guastalla, ce devait être l'agent de change de mon secrétaire. L'argent procure tant de choses. Mais non, c'est l'empereur, paraît-il, qui s'est amusé à donner à ces gens un titre précisément indisponible. C'est peut-être une preuve de puissance, ou d'ignorance, ou de malice. Je trouve surtout que c'est un fort mauvais tour qu'il a joué ainsi à ses usurpateurs malgré eux. Mais enfin, je ne puis vous donner d'éclaircissement sur tout cela. Ma compétence s'arrête au faubourg Saint-Germain, où, entre tous les courvoisiers et galardons, vous trouverez, si vous parvenez à découvrir un introducteur, de vieilles galles tirées tout exprès de Balzac et qui vous amuseront. Naturellement, tout cela n'a rien à voir avec le prestige de la princesse de Guermantes. Mais, sans moi et mon sésame, la demeure de celle-ci est inaccessible. C'est vraiment très beau, monsieur, à l'hôtel de la princesse de Guermantes.
Oh, ce n'est pas très beau, c'est ce qu'il y a de plus beau, après la princesse, toutefois.
La princesse de Guermantes est supérieure à la duchesse de Guermantes ?
Oh, cela n'a pas de rapport.
Il est à remarquer que, dès que les gens du monde ont un peu d'imagination, ils couronnent ou détrônent, au gré de leur sympathie ou de leur brouille, ceux dont la situation paraissait la plus solide et la mieux fixée. La duchesse de Guermantes, peut-être en ne l'appelant pas Oriane, voulait-il mettre plus de distance entre elle et moi ?
Est délicieuse, très supérieure à ce que vous avez pu deviner. Mais enfin, elle est incommensurable avec sa cousine.
Celle-ci est exactement ce que les personnes des Halles peuvent s'imaginer qu'était la princesse de Metternich. Mais la Metternich croyait avoir lancé Wagner parce qu'elle connaissait Victor Morel. La princesse de Guermantes, ou plutôt sa mère, a connu le vrai. Ce qui est un prestige, sans parler de l'incroyable beauté de cette femme. Et rien que les jardins d'Esther.
On ne peut pas les visiter ?
Mais non, il faudrait être invité, mais on n'invite jamais personne, à moins que j'intervienne.
Mais aussitôt, retirant après l'avoir jeté l'appât de cette offre, il me tendit les mains, car nous étions arrivés chez moi.
Mon rôle est terminé, monsieur. J'y ajoute simplement ces quelques paroles. Un autre vous offrira peut-être un jour sa sympathie comme j'ai fait. Que l'exemple actuel vous serve d'enseignement. Ne le négligez pas. Une sympathie est toujours précieuse. Ce qu'on ne peut pas faire seul dans la vie, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas demander, ni faire, ni vouloir, ni apprendre par soi-même. On le peut à plusieurs, et sans avoir besoin d'être 13, comme dans le roman de Balzac. Ni 4, comme dans les 3 mousquetaires. Adieu. Il devait être fatigué et avoir renoncé à l'idée d'aller voir le clair de lune, car il me demanda de dire au cocher de rentrer. Aussitôt, il fit un brusque mouvement, comme s'il voulait se reprendre. Mais j'avais déjà transmis l'ordre, et, pour ne pas me retarder davantage, j'allais sonner à la porte, sans avoir plus pensé que j'avais affaire à monsieur de Charlus. Relativement à l'empereur d'Allemagne, au général Botta, des récits tout à l'heure si obsédants, mais que son accueil inattendu et foudroyant avait fait s'envoler bien loin de moi.